Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Ce jeudi, le Conseil de la métropole du Grand Paris s'est réuni et a voté la révision de son plan climat-air-énergie. Le précédent avait été adopté en 2018 avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% par rapport à celles de 2005. Alors que les émissions des habitants de la métropole atteignent aujourd'hui quasiment 17 millions de tonnes équivalent carbone, la métropole compte agir sur l'air que nous respirons. Mais comment, alors que les interdictions de circuler dans la zone à faible émission sont sans cesse reculées? Nous nous interrogerons également sur la façon de ralentir les émissions des foyers métropolitains qui sont la première source de pollution de l'air. La géothermie peut-elle être la solution à l'échelle du Grand Paris? Et puis face au réchauffement du climat, aux crues qui ont menacé certaines communes en 2016 et en 2018, quelle solution pour que les habitants vivent dans une métropole résiliente? Ce soir, nous allons tenter d'évaluer quel rôle joue cette métropole face à toutes ces problématiques et si cette collectivité a vraiment le pouvoir de faire changer les choses pour vous, habitants du Grand Paris, avec nos invités. Didier Gonzalez, conseiller métropolitain et maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Tony Renucci, président de l'association Respire. Et Aurore Collin, chercheuse à l'Institut de l'économie pour le climat Grand Paris. Comment faire face au changement climatique? Île-de-France Politique, c'est parti. Et bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je voulais commencer par une question sur le bruit, parce que Bruit Paris a publié une étude ce jeudi qui montre que cette exposition au bruit, la pollution sonore, augmente aux confins de la métropole, alors qu'en centre-ville, elle a tendance à diminuer. Votre réaction, pardon, Didier Gonzalez.
Oui, alors justement, aujourd'hui même, et vous avez raison, parce que c'est l'actualité, nous avons les parutions des cartes de bruit. Et les cartes de bruit, qu'est-ce que c'est? C'est le diagnostic. Donc on sait maintenant très précisément où il y a du bruit. Et c'est absolument fondamental parce que si on veut pouvoir agir sur le bruit, il faut savoir où il y en a et comment mener ces actions. Voilà. Donc les nouvelles générations de cartes de bruit, puisque vous savez que assez régulièrement il faut les réactualiser, ce qui est complètement normal. Voilà. Donc là vient de sortir par Bruit Parif, un organisme indépendant on vient de sortir la quatrième génération et donc ça va nous permettre de déboucher sur les actions à mener. Et d'ailleurs au Conseil de la Métropole dont je sors là en ce moment, juste il y a quelques temps, eh bien nous avons voté un certain nombre de dispositions pour lutter contre les points noirs bruit, justement pour tenir compte...
Lesquels par exemple?
Les points, là en l'occurrence, c'était des points ferrés, puisque vous savez qu'il y a plusieurs catégories de bruit, bruit aérien, bruit routier, bruit ferré, et bien sûr le bruit ferré, il y a des... en fonction de cartographie bruit, par exemple à Villeneuve-Saint-Georges, vous avez un point noir bruit avec toute la gare de triage, tout un tas de trains qui passent évidemment. Ça fait beaucoup plus de bruit qu'ailleurs. Et donc, il convient d'agir. Et la métropole du Grand Paris, là pour le coup, a débloqué un certain nombre de fonds pour réaliser des murs anti-bruit, par exemple. Voilà, par exemple.
Bon, donc la métropole qui agit donc sur le bruit, on vient de le voir, qui agit aussi donc sur la qualité de l'air. On va regarder une infographie, c'est une étude qui a été publiée par le CNRS qu'on peut constater sur cette infographie publiée cette semaine. Eh bien, c'est que il y a une concentration de particules très fines sur les quartiers populaire. C'est ce qu'on voit donc dans cette étude à laquelle vous êtes associé, d'ailleurs, à l'association Respire. Ça vous a surpris de ces constatations ?
Non, ça confirme déjà ce qu'on sait, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une exposition aussi des populations parfois les moins favorisées. Et en plus, là, on a vraiment un niveau de granularité qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que, notamment, c'est au nord-est de Paris qu'on a les taux de pollution les plus élevés et que c'est au sud-ouest de Paris, dans les quartiers finalement un peu plus privilégiés, qu'on en a le moins. Et puis, bien sûr, la proximité avec le périphérique qui fait aussi qu'on a une exposition qui est très mauvaise en termes de santé publique.
Mmh. J'en ai parlé en introduction, les émissions de gaz à effet de serre du Grand Paris, ça s'élève quasiment à 17 millions de tonnes équivalent carbone, avec une ambition renouvelée pour le Grand Paris, adopter, je le disais en introduction, un nouveau plan climat, air, énergie. Finalement, c'est quoi ce plan ?
Alors ce plan métropolitain a été adopté il y a déjà quelques temps, mais là nous passions le PPA, le plan pour l'atmosphère, et donc qui est un dispositif État. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais disons que la métropole est parfaitement concernée par cette problématique, puisque en définitive, qu'est-ce que c'est que la métropole ? La métropole du Grand Paris, c'est la réunion de tous les maires. Et comme les maires sont des collectivités qui sont concernées par la problématique du bien-être des habitants, et bien forcément, nous gérons ce pôle-là qui nous a d'ailleurs été conféré par la loi. Donc, si vous voulez, nous essayons la métropole du Grand Paris, là j'ai ma casquette de représentant de la métropole, essaye d'accompagner le mouvement en unissant les différentes actions possibles et en les mettant en cohérence. Et donc là sont développés, mais j'imagine qu'on va en parler, tout un tas de trains de mesures qu'on va retrouver à travers des accompagnements de dispositifs qui peuvent d'ailleurs exister par ailleurs pour changer les véhicules, pour changer les chaudières, pour faire... Voilà.
Aurore Collin, est-ce que c'est la bonne échelle, oui, la métropole, justement, pour agir sur ce plan-là ?
Oui, tout à fait. Peut-être pour rebondir sur ce plan climat, rappeler que les métropoles, mais les villes en général, ont un rôle vraiment clé dans la transition écologique carbone. Rappeler qu'elles ont des compétences notamment sur les bâtiments, toute la rénovation énergétique des écoles par exemple, des mairies, qui est essentielle. Elles ont des compétences aussi, on le voit très bien, moi je suis citadine, je vois tous les jours le transport en commun, le vélo aussi, un développement du vélo, des pistes cyclables, c'est vraiment un levier très fort de décarbonation en France, donc elles ont des compétences sur ça, sur l'éclairage public aussi, à la réduction de l'énergie liée à l'éclairage public. Elles ont des compétences plus larges en aménagement, urbanisme, et donc elles sont vraiment essentielles pour le climat et la transition. Rappelez aussi que les objectifs sont fixés au niveau de l'État, pardon, et de l'Union européenne, mais que la mise en œuvre, elle est très locale et elle passe par les villes, les métropoles. Et donc, c'est vraiment un maillon essentiel pour justement réussir la transition bas carbone en France.
Ce nouveau plan climat air énergie, il prévoit notamment qu'on atteigne les objectifs au départ prévus pour 2050, dès 2030. Ça va vite, finalement ? Est-ce que ça va assez vite ?
Ah ben si on met des échéances plutôt, j'ai envie de dire oui. Après, tout dépend sur quel sujet on s'exprime. Et puis, vous savez, parfois, on peut mettre des échéances à 2030. Et puis, quand on arrive en 2029, on peut aussi les reporter. Alors là, je parle d'un sujet que je connais un peu plus sur la zone à faible émission. Mm-hmm. On a une échéance pour les critères 3 qui est au 1er janvier 2025. Ça fait deux fois qu'on la reporte. Donc, j'en jugerai au 1er janvier 2025, mais tant mieux si sur les autres items, on arrive à avancer plus rapidement.
Est-ce que la métropole, elle a un réel pouvoir justement sur cette ZFE ? Parce que pour le moment, il n'y a pas de contrôle.
On essaie d'accompagner le mouvement, parce qu'en réalité, c'est un peu facile de fixer des objectifs. Encore faut-il se donner les moyens d'y arriver, pour rebondir sur votre propos. Alors évidemment, l'État ou d'autres institutions vont dire, voilà, il faut arriver à ci, il faut faire ça. Oui, mais comment ? Parce qu'en définitive, quand on dit, bon, il faut supprimer des véhicules, etc. Oui, très bien, mais à ce moment-là, il faut bien prendre conscience qu'il faut accompagner ces changements. Donc, quid du financement ? Parce qu'autrement, ça revient à être punitif et ce n'est pas ce qu'on cherche. Personne va chercher ce type de choses.
Donc, parce qu'acquérir un véhicule électrique, ça coûte
oui,
très
non,
cher.
Mais bien évidemment, moi je le souhaite dans ma ville, par exemple. Alors je prends ma casquette de maire. Bien évidemment, je souhaite qu'il y ait le maximum de véhicules électriques. Bien évidemment, mais encore faut-il pouvoir assurer le renouvellement. Ils sont malgré tout assez chers. Encore faut-il prévoir suffisamment de bornes pour pouvoir ravitailler ces véhicules électriques. Eh bien, voilà des thématiques sur lesquelles se penche la métropole, avec un dispositif pour installer des bornes électriques, avec des aides qui viennent se cumuler à d'autres, mais essayer d'être le point de bascule pour rendre les choses possibles.
Mais donc voilà. Elles existent, ces aides, mais elles ne sont pas en quantité suffisante ?
Eh bien, oui, il y a deux dimensions, hein, du coup, dans les mises en place de nos faibles émissions. Je pense qu'il y a en effet la mobilité électrique, hein, il faut accompagner, et il y a des questions de financement aussi, notamment des ménages les plus précaires, et actuellement, quand on voit le rythme des investissements, il faut accélérer, donc en effet, les financements publics, les aides publiques sont primordiales et importantes. Il y a aussi un second rôle des pouvoirs publics sur cet accompagnement-là, c'est le développement des alternatives aussi à la voiture. Il ne faut pas oublier, hein, les voitures électriques, c'est une solution, mais aussi les transports en commun, le vélo. Et là, donc, il y a le Grand Paris Express, des gros investissements menés par la métropole, en tout cas par les acteurs, justement, d'infrastructures à Paris, pour développer des infrastructures de transport de très bonne qualité, mais qui demandent des gros investissements et derrière aussi des moyens de fonctionnement pour les faire fonctionner. Ouais.
Nouveau plan climat, air, énergie égale nouveau financement.
Exactement.
Nouvelle subvention.
Exactement.
Et d'où vient tout cet argent?
Cet argent, forcément, il doit venir de quelque part. Alors, au bout du compte, cet argent doit arriver soit directement à partir des investissements des collectivités locales, quand elles le peuvent. Mais là, les budgets sont limités.
Des villes, par exemple.
Mais exactement, mm-hmm. Des villes. Or, bien évidemment, moi, je ne connais pas une seule commune qui ne soit pas impliquée dans son verdissement. Mm-hmm. Parce qu'on a tous, je crois, et encore plus sur la qualité de l'air que sur le bruit, d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que sur la qualité de l'air, tout le monde a bien compris qu'il y avait un gros problème.
Un enjeu de santé publique.
Exactement. Sur le bruit, la question est encore, faites du bruit, c'est sympa, vous voyez. Enfin bon, les choses sont moins arrêtées, même si maintenant on en prend davantage conscience. Mm-hmm. Mais sur la qualité de l'air, il est évident qu'il faut arriver à débloquer des budgets. Alors, je reviens à mon propos initial. Soit ça vient de la ville, qui en elle-même va arriver à débloquer, réorienter des crédits, parce qu'il n'y a pas d'argent nouveau, hein, on le voit bien.
Mais
soit ça vient d'autres dispositifs. Et ces autres dispositifs, c'est le réaménagement de l'union fait la force, et on se retourne vers soit des collectivités comme la région qui peuvent intervenir, soit l'État, soit la métropole qui est l'union des maires qui essaie de conjuguer ses efforts pour arriver à des politiques cohérentes et plus épaisses, parce qu'on est vraiment dans ce schéma intercommunal dont on parle. Donc forcément, l'argent est le nœud du problème. Donc à chaque fois qu'on a une très très bonne idée, moi j'appelle de mes voeux qu'on ait un très très bon moyen pour arriver à cette idée.
Tony Rinucci, je le disais tout à l'heure, la métropole du Grand Paris qui entend donc atteindre les objectifs donc de réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celle de 2005, mais donc dès 2030. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre de 2005? Est-ce qu'on les a déjà réduites?
Alors honnêtement, moi, j'ai pas de données tellement par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, parce que moi, je regarde plus ce qui est de l'ordre des polluants atmosphériques.
D'accord.
Ce qui est vrai sur les situations, que ce soit d'ailleurs la métropole du Grand Paris ou même plus globalement dans la région et même en France d'ailleurs, c'est que on est sur une pente à la baisse des émissions, aussi parce que les motorisations progressent et aussi parce qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment au niveau des collectivités locales, que ce soit en termes d'aménagement, que ce soit en termes aussi d'aide à la reconversion. Donc ça, c'est une réalité. Pour autant, la situation reste encore mauvaise parce que les niveaux de pollution restent encore trop élevés, les niveaux d'émissions restent encore aussi trop élevés par rapport à des référentiels qu'on a, nous, notamment sur ce qu'on appelle les recommandations de l'OMS.
De l'Organisation mondiale de la santé.
On peut encore faire mieux. Et je pense que d'ailleurs, il y a un sujet intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux dans un contexte aussi que j'entends, que vous dites budgétaire aussi un peu contraint, en termes aussi d'acceptabilité sociale. Et il y a des choses qui sont d'ailleurs intéressantes que j'ai vues par rapport à la métropole, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur les ZFE, j'y reviens encore un petit peu, mais il y a ce sujet aussi des véhicules et du poids des véhicules. Nous, on milite aussi pour qu'on révise les vignettes critères en prenant plus en compte la masse du véhicule, parce que ça a un impact sur la qualité de l'air, mais aussi un impact sur les émissions de CO2. Il y a une modulation en fonction du poids, j'ai vu, qui a été intégrée par la métropole à 2,4 tonnes. Bon, elle est beaucoup trop élevée pour nous, mais c'est la première collectivité, je crois, qui fait cet effort-là. Je n'ai pas vu ça encore ailleurs. Je pense qu'il faut encore le baisser. Et s'il y a une proposition que je peux vous faire, d'ailleurs, sur le plan climat que vous allez voter, c'est de baisser ce seuil à 1400 kg pour les véhicules thermiques et aussi d'inclure dans les aides financières que vous proposez aux ménages une aide au changement pour le chauffage. Parce que la première source de particules fines en Ile-de-France et d'ailleurs aussi dans la métropole, c'est bien le chauffage au bois. Il y a encore beaucoup de ménages, contrairement à ce qu'on pense, France qui se chauffent au bois. Il faudrait les encourager aussi à aller vers l'électrique et la métropole pour aussi avancer là-dessus.
On va voir justement cette répartition, hein, puisque l'un des polluants les pires, c'est justement la source du chauffage résidentiel. Comment est-ce qu'on fait pour réduire ces gaz à effet de serre, ces émissions de gaz à effet de serre? C'est notamment, ça passe par la rénovation énergétique, on imagine?
Ah oui, complètement. C'est un énorme levier de réduction de gaz à effet de serre, la rénovation énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments publics de la collectivité, on l'a évoqué, hein, les écoles, les mairies, les gymnases. Mais il y a aussi l'ensemble des logements à rénover. Donc là, il y a un effort conséquent à faire. On me disait tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, est-ce qu'on doit accélérer? Forcément, il faut accélérer sur la rénovation, mais aussi sur les autres mesures, on pourra y revenir. Et sur la rénovation, là, c'est vraiment pousser vers des rénovations qui sont globales et performantes. Aujourd'hui, on a beaucoup de rénovations par geste. Par exemple, un peu absurde, on va mettre une PAC à la place d'une chaudière, alors que c'est une passoire énergétique. Donc on va consommer, même si c'est une énergie qui est propre, on va consommer énormément. Donc il faut d'abord isoler par l'extérieur, ensuite changer le système de chauffage. Enfin, c'est vraiment penser des rénovations globale performante.
Mais il y a beaucoup, par exemple, de bâtiments à Paris qui ne peuvent pas être isolés par l'extérieur. On s'oppose aussi aux bâtiments de France.
Ah, voilà, c'est sûr qu'il y a des injonctions contradictoires. Vous avez raison. c'est la réalité.
Et pour ça, c'est assez compliqué. Finalement, dans ce contexte budgétaire, est-ce que dans les communes, on a suffisamment d'argent pour engager la solarisation des toitures, la rénovation énergétique des bâtiments publics? Est-ce qu'on a, en ce moment, dans ce contexte d'inflation, après un hiver particulièrement rude, justement assez de crédit pour engager ces investissements?
Ben, j'aimerais vous dire oui, mais ce ne serait pas la vérité. Voilà. Et donc, en réalité, non, en réalité, on fait ce qu'on peut. Et en fait, il y a un élément d'accélération. Et l'élément d'accélération, c'est l'inflation. Parce que quand vous payez l'électricité deux fois plus cher, quand vous payez le gaz quatre fois plus cher, parce que les collectivités locales n'ont pas de bouclier énergétique, eh bien forcément, vous êtes obligé de réorienter vos priorités. En tous les cas, d'essayer de les faire comprendre à vos administrés. Et donc leur dire, écoutez, votre rue, on la ferait peut-être pas cette année, mais en revanche, on va essayer de regarder comment on peut mieux isoler tel bâtiment, parce qu'en définitive, on rentre dans une échelle qui rend possible l'intégration des critères qui les reclasse dans des priorités, alors qu'autrement, on rentrait dans un cercle vertueux un peu lointain. Là, on est rattrapé par la réalité budgétaire qui s'impose. Donc vous voyez comment le budget renvoie au budget et que, en définitive, on est en train d'assister à une sorte d'accélération. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'État intègre cela, puisque j'ai vu arriver sur mon bureau une demande des différents équipements qui auraient besoin de rénovation énergétique. Il y a loin de la coupe aux lèvres, ça ne veut pas dire pour autant que l'État va venir nous aider directement. Et je ne sais pas de combien. Mais le fait qu'on m'en demande déjà l'inventaire, alors même que nous souhaitons le faire, mais tout ça va dans le bon sens. Et en fait, je pense qu'on n'arrivera à progresser que lorsqu'on arrivera à vraiment conjuguer tous ces moyens. Et là, en tous les cas, c'est vraiment ce que j'appelle de mes voeux. C'est d'arriver à conjuguer tous ces moyens, parce qu'autrement, c'est bien beau de faire des incantations, mais la réalité, on est rattrapé par la réalité. Et j'ai des administrés qui viennent me trouver, alors même qu'on essaie d'assurer la publicité des dispositifs régionaux, voire métropolitains, etc., de façon à pouvoir les aider à changer leur chaudière qui pollue épouvantablement. Mais eux répondent, mais écoutez, vous êtes bien gentils, vous me laissez combien de pourcentage à ma charge pour des gens qui n'en ont pas la possibilité? Donc vous voyez, on est assez rapidement rattrapé par ce volet-là. Et puis il y en a peut-être un autre qu'on n'a pas encore abordé, mais j'ai très envie de le faire, c'est le volet aérien. Parce que lorsqu'un avion décolle, il faut rajouter à cela une volonté politique. Lorsqu'il y a un avion qui décolle, eh bien, il faut savoir qu'un 747 sur un décollage, ça pollue autant qu'une Clio sur 160 000 km. Bon, donc vous voyez qu'il y a aussi à intégrer, et ça doit être plurifactoriel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'effort il doit être fait pour le chauffage, vous avez baissé votre chauffage, parce qu'en définitive, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des économies et moins polluer. Vous serez d'accord avec moi. Bon, très bien. Et pour autant, il n'y a pas de retard pour aller passer un week-end à Marrakech. Donc, voilà. Donc, il faut se mettre en cohérence.
Je vous repose la question, Tony Renucci. Est-ce que vous avez la sensation qu'on va assez vite, que ce soit sur le plan routier, aérien, que ce soit la pollution émise par le chauffage résidentiel, sur le vélo, voilà. Est-ce qu'on va assez vite?
En tout cas, j'ai quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une société qui est prête à bouger. Nous, on a fait un sondage là récemment avec Kantar, Nuances d'Avenir et donc Respire. Et on voit que, par exemple, d'ailleurs, au niveau de l'agglomération parisienne, on a un habitant sur deux qui est inquiet, enfin, qui pense en tout cas que la situation est mauvaise. Et on en a 7 sur 10 qui sont inquiets vraiment des conséquences sanitaires de cette pollution. Donc la société, quand même, il y a une vraie prise de conscience. Et à côté, on voit une réponse politique qui, je trouve, prend beaucoup plus en compte ces enjeux-là. Et pour le coup, la métropole propose en plus des choses intéressantes, même si, bien sûr, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite parce qu'on reste aussi une association environnementale. Donc je trouve qu'il y a des choses qui se passent. Est-ce que ça va assez vite ? Probablement pas assez, mais je ne pourrais pas faire porter cette responsabilité uniquement sur les collectivités locales qui, je pense, au contraire, essaient déjà de faire beaucoup de choses. Et à mon avis, le vrai problème, il vient malheureusement plutôt de l'État. Si le cap n'est pas clair, si on ne donne pas un cap clair en termes de stratégie à la fois à la population et aux collectivités, on ne peut pas demander ensuite aux autres de l'assumer seul.
Partage votre point de vue. Bien sûr.
Vous parliez. Souvent ici, les collectivités partagent ce point de vue.
Bien sûr.
Contre l'État ici.
Peut-être quelques chiffres pour donner un petit peu à voir l'ampleur de la marche à franchir pour les collectivités. Donc, certainement, les collectivités font énormément. Et forcément, on a évalué le besoin d'investissement des collectivités pour le climat. Et en fait, aujourd'hui, ils investissent entre 6 milliards d'euros et 6,5 milliards d'euros pour le climat, donc rénovation, bâtiments, transport. Et l'effort qui leur est demandé, c'est de doubler ces investissements-là. Donc atteindre 12 milliards d'euros par an en investissement sur l'ensemble des collectivités, donc villes, communes, régions, départements. Ça voudrait dire pour une ville que 1 euro sur 5, en gros, est dédié à l'investissement climat. C'est pas inatteignable, mais c'est, par rapport à aujourd'hui, c'est doubler l'effort actuel. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites, mais quand même...
Aujourd'hui, on a 1 euro sur 10, c'est ça, c'est
1 euro sur 10 ? En gros, ce serait ça, exactement, si on prend le proxy. Et donc, il faut quand même doubler l'investissement et accélérer, parce qu'on a des objectifs qui sont aussi très ambitieux derrière. Et
c'est mais il y a des solutions qui existent. On le voyait, on va peut-être le voir avec la géothermie. Il y a un potentiel géothermique en Île-de-France qui pourrait couvrir quasiment 2/3 de la consommation résidentielle. Alors, on a pris l'année 2019, c'était l'année de référence, du Grand Paris. Donc, finalement, cette possibilité de la géothermie, est-ce qu'on l'étudie déjà ? Est-ce que c'est mis en place dans certaines communes ?
Ah oui. Non, mais bien sûr, la géothermie existe déjà. Et vous avez des collectivités. Ah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, sauf que là encore, juste à côté de ma commune, on a réalisé un puits. Donc moi, je me suis dit, c'est extraordinaire, on va pouvoir en bénéficier. Et puis très rapidement, on m'a expliqué qu'à partir d'un seul puits, on ne pouvait pas arroser tout le monde et qu'il fallait réintroduire, etc. Moi qui n'y connaissais strictement rien en géothermie. Donc voilà, on m'a fait mon éducation. Et il s'avère qu'en définitive, il faudra en réaliser plusieurs. Bon, et donc là encore... On est obligé de rentrer dans une programmation qui doit obligatoirement dépasser l'échelle de la commune, et on revient à celui de la métropole pour faire cohérence, parce que chacun n'a pas planté un derrick comme au Texas, chacun le sien. Hein. Il faut faire des choses cohérentes. Et donc là encore, sur la base de planification, on donne de la cohérence et on y revient. Quid du financement ? Parce que c'est pas à l'échelle d'une ville que de s'offrir un puits de géothermie. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est quelque chose de très très séduisant. Ça donne énormément envie, surtout en plus, et je le redis, en période d'inflation, où vous voyez ce que vous payez, et vous seriez quand même drôlement intéressant.
Ça permet de réaliser des économies.
Bien évidemment.
L'une des compétences de la métropole aussi, hein, c'est d'être résiliente face à ce réchauffement climatique. Il y a la taxe GEMAPI notamment. Elle n'est pas très élevée pour les habitants du Grand Paris. Elle équivaut à 75 centimes par habitant. On la paye depuis janvier 2019. Est-ce que ça a des réels effets, justement, cette taxe GEMAPI? Est-ce qu'elle sert vraiment à la résilience de la métropole?
Alors moi,
moi, je veux bien répondre à cette question.
Vous qui avez été concerné justement
bien sûr,
par les crues à
Villeneuve-Loire. Mais voilà, dans votre question, il y a la réponse. Parce que, bien évidemment, à quel moment la GEMAPI prend tout son sens? Malheureusement, lorsque vous avez un fleuve qui déborde. Parce que c'est ça la réalité. Et donc, la GEMAPI sert à quoi? Sert à faire de la prévention. Donc, c'est la raison pour laquelle la taxe n'est pas très élevée, parce qu'il y a une question d'acceptabilité, c'était évoqué tout à l'heure. Là aussi, on ne peut pas surtaxer, même s'il y aurait un besoin urgent, parce que pendant des années, il n'a rien été fait en matière d'inondation. Vous voyez, on subissait, et en fin de compte, grâce à Dieu d'ailleurs, on n'a pas eu la centennale qu'on nous prédit assez régulièrement, qui provoquerait le niveau de 1910 qui serait absolument épouvantable. Et alors donc, on essaie de travailler à la métropole. C'est une charge qui est très ingrate à la métropole d'ailleurs. Parce que je vous assure que réaliser des travaux alors même qu'on n'a pas une lisibilité immédiate. Vous savez comment sont les gens maintenant, hein. Ils veulent voir tout de suite l'effet de leurs investissements.
Ils vont le faire, il y a un exercice qui est organisé.
L'exercice, il n'est pas grand public. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser? Vous voulez que je développe ce qu'on réalise dans le cadre de la GEMAPI? Dans le cadre de la GEMAPI, on fait des réservoirs d'eau en amont. En amont des villes qui sont exposées au fleuve. Et notamment, là, en l'occurrence, on va aller stocker de l'eau dans les campagnes en amont de la Seine, en amont de la Marne, pour justement, plus il y aura d'eau stockée, en tous les cas, stockable. C'est-à-dire qu'on fait des zones tampons, si j'ose dire. Et donc, on va stocker de façon à voir régulée et ainsi permettre une évacuation plus lisse et limiter l'impact des inondations. J'en sais quelque chose parce que en 2016-2018, j'étais assez lourdement impacté sur Villeneuve-le-Roi par débordement de la Seine, et je vous assure que les effets peuvent être franchement catastrophiques. Donc tout ceci, c'est du travail en amont. Mais pas seulement, il y a du travail de désimperméabilisation. Et si vous me branchez là-dessus, alors là, je suis
C'est agir donc en amont de ce réchauffement climatique, de cette transition écologique. Mais c'est aussi réagir, même après. C'est-à-dire qu'il va falloir être résilient.
C'est ça.
Et ça, c'est comment? Est-ce que c'est suffisamment pris en compte?
Ce qui pourrait être complété sur les enjeux d'inondation, de crues, c'est aussi à Paris. Et je lisais encore un journal international sur un journaliste qui s'inquiétait de est-ce qu'on vivra à Paris dans 10 ans avec les chaleurs en fait et la canicule. S'inquiétait un petit peu de ce qu'on pourra vivre l'été à Paris. Et en fait, c'est aussi une question centrale. Et là, c'est pas forcément faire de la rénovation thermique sans penser le confort d'été, c'est faire les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment très important. L'adaptation au changement climatique, la résilience. C'est des moyens particuliers qu'il faut dédier, les techniques, des solutions, mais c'est aussi bien concevoir les projets de rénovation, d'infrastructures pour qu'elles prennent en compte l'adaptation au changement climatique. Donc là, on a par exemple un terme que j'ai entendu récemment dans le débat qui vient d'être employé, de bouilloire thermique. Et c'est intéressant, c'est un petit peu, y a les passoires thermiques qu'on entend beaucoup aujourd'hui, il faut rénover, notamment à Paris, il y a beaucoup de passoires thermiques, mais attention de ne pas créer en rénovant des bouilloires thermiques, c'est-à-dire des baies vitrées exposées plein sud et donc des écoles, même des crèches, des collectifs nous disent des fois l'été c'est insupportable parce qu'en fait il fait trop chaud. Donc c'est vrai que dans 10, 15, 20 ans, les canicules seront récurrentes, on aura plus de 40 degrés, 45 degrés à Paris, et ça c'est important de le prendre en compte dès maintenant quand on rénove des bâtiments, quand on construit aussi les bâtiments parisiens.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été les invités d'Île-de-France Politique ce soir sur le sujet de la transition écologique et de sa prise en compte par les collectivités locales et notamment par la métropole du Grand Paris. L'information continue sur BFM Paris Île-de-France.